RMC, cours numéro 1.
Bonsoir, bienvenue sur cours numéro 1. C'est un podcast un peu spécial parce que là je suis au cœur du réacteur. Il est 3h20 du matin. Oui, vous entendez bien, 3h20 du matin. On va débuter dans quelques instants le tie-break du 5e set entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton. Je vous laisse profiter de l'ambiance qui est complètement électrique. Alors évidemment, le stade n'est pas plein. Il n'y a pas 23 000 personnes, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui vivent ce match ici sur le central. Épilogue donc dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes. Il est 3h20, je le répète, 4h15 à la pendule. Début du super tie-break. On se retrouve pour la balle de match. 5 points à 4. Alcaraz qui a un mini break d'avance. Sous mon nez, sous mes yeux, il y a Shelton qui parle beaucoup avec son papa, Brian Shelton. Mais je ne sais pas s'il l'écoute vraiment. C'est une atmosphère de dingue. On est vraiment dans le Money Time. C'est des scènes incroyables. 5-4 Alcaraz. Allez, on se retrouve dans peu de temps. Carletos qui part à la faute sur un coup droit. 5 points partout. Ça devient irrespirable. Hein. Premier à 10, bien sûr. Hein. Vous savez que maintenant, c'est l'uniformisation dans les grands chelems. Il y a super tie-break. Premier à 10 points. 5 points partout. Alcaraz au service. Service gagnant 6-5 Alcaraz. Shelton va servir deux fois. 4h23 de jeu. On est sur une journée historique. Évidemment, on l'a débriefé tout à l'heure parce qu'on aura eu 3 matchs tie-break. Le simple dame et deux simples messieurs. 3 matchs tie-break. C'est irréel ce qui s'est passé aujourd'hui à Flushing Meadows. Irréel. Part à la faute à Carlitos en revers. 6 points partout. Les deux joueurs tournent. On entend le service de nettoyage dans le stade. C'est juste irréel ce qui se passe ici. Let's go Ben. Let's go Ben. Vous entendez peut-être les Américains, les New Yorkais qui poussent leurs joueurs pour faire chuter Alcaraz qui défend son titre, je vous rappelle. 4 mois et demi qu'il n'a pas joué. Il a eu un petit souci physique tout à l'heure. Il a vomi dans sa serviette. Mais il est toujours debout. Carlitos, il était mené 2 manches à 1. Il est revenu à 2 manches partout. 6 points partout donc dans Super Tiebreak. Oh, une énorme bombe à 146 miles. 7-6, Shelton. 146 miles. Il va falloir un bras. Oh là là, Carlos. Ça sort de 2 mètres. 8-6, Shelton. Ah, ça se précise. Ça se précise pour l'Américain. La plus grande victoire de sa carrière. Peut-être une demi à jouer contre son pote Tiafoe. 8 points à 6. Il faut absolument que Carlos Alcaraz remporte son service, sinon il y aura 3 balles de match. Oh là 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 là, ce qu'il nous faut. Volée amortie d'Alcaraz, Shelton qui se bat comme un chien qui la remet. Mais évidemment, l'Espagnol était là au filet. Pour conclure, 8 points à 7, Shelton. Il a deux services à venir. Si jamais il passe ses premières, c'est peut-être gagné pour Ben. Pas de première, hein, vous l'avez compris, dans le filet. Énorme deuxième sur le revers de Carlos. Il a fait opposition, Carlos, mais c'est sorti dans le couloir. Balle de match, les gens sont debout. C'est incroyable, les gens sont debout. Incroyable, 9-7. Les gens sont debout, je vous promets, c'est complètement dingue. Oh, c'est un ace! Un ace à 146 miles! Et Ben Shelton élimine Carlos Alcaraz, match monumental, superbe poignée de main, superbe accolade, incroyable Ben Shelton, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, Carlos Alcaraz, le roi est déchu, et il y aura un Américain en finale de cette US Open, peut-être que l'interminable attente va prendre fin, Roddick 2003, et bien dimanche il y aura un Américain en finale. C'est juste incroyable. Shelton qui savoure. Il est dos à son clan. Son père est fou. est fou de joie, même s'il ne le montre pas. Mais qu'est-ce qu'il attend, Ben, pour, il remercie le public. Qu'est-ce qu'il attend pour venir faire l'accolade à son fils, à son père, pardon. Ah oui, il était tourné vers son clan, vers sa maman de l'autre côté. Ben Shelton qui signe une perte énorme, énorme match qui s'est donc achevé à une heure insensée. Il y a qu'ici qu'on voit ça, This is New York, voilà, Shelton, il est à 20 mètres de moi, qui vient voir son clan. Quelle scène, il l'a fait, énorme Ben Shelton. Oh, il est complètement dans un état second, Ben Shelton. Donc il vient de sortir Carlos Alcaraz. Quelle heure il est là? J'ai même pas l'heure sous les yeux. Je regarde la pendule du stade. Ouais, il est 3h35 du matin. Vous vous rendez compte? 3h35 du matin. Et Ben Shelton vient de mettre à terre Carlos Alcaraz, qui pose son sac avant de quitter le court pour saluer le public new-yorkais. Waouh! Quelle journée! What a Tuesday! On va évidemment revenir sur cette journée de dingue. Parce que des journées comme ça, on n'en reverra pas de sitôt. Il n'y a qu'à New York qu'on peut voir ça. Mais quand même, ça pose des questions. Doit-on jouer au tennis aussi tard? Il y a plein de débats. Mais en tout cas, on s'est régalé. Ça a été une journée absolument exceptionnelle. Avec donc l'info, c'est qu'il y aura un Américain en finale de cette US Open 2026. Soit Tiafoe, soit Shelton. Ils sont déjà joués deux fois ici sur le H. Et la dernière fois, c'était Tiafoe qui s'était imposé. En tout cas, il va partir avec un petit handicap, Ben Shelton, parce que finir une rencontre à une heure aussi tardive, tu le payes à un moment. Mais bon, il a deux jours pour se remettre, même trois jours. Ah, c'est l'avantage, oui, trois jours puisque ce sera vendredi. Voilà, de retour au calme, j'essaie de retrouver un petit peu ma voix. On a la chance quand même de faire ce métier, de vivre des moments comme ça. C'est vrai que c'est incroyable de finir à 3h30 du matin, mais ce n'est pas le record en Grand Chelem, puisqu'il y a eu des matchs qui se sont achevés encore plus tard à Melbourne, à l'Open d'Australie, le fameux Bagdatis Yewit. Mais c'est vrai que là, les organisateurs ont joué de malchance, si je puis dire, parce que les trois matchs précédents ont duré très longtemps et la night session a été décalée. Je vous expliquerai parce qu'il faut vider le stade. Je vous raconte les coulisses, puisqu'il n'y a pas eu de conférence de presse traditionnelle, hein, compte tenu du contexte. Et c'est d'abord Ben Shelton, qui a à peine sorti du cours, après avoir signé les autographes, après avoir embrassé comme ses proches, qui est venu donc dans le couloir des vestiaires pour répondre à deux, trois questions. Et, écoutez donc, c'est les premiers mots de l'Américain. Je peux vous dire qu'il avait les traits très tirés.
Yeah, I'm tired. You know, that was a war, epic match. I mean, so physical, and yeah, Carlos, one of the greatest champions in our sport already at 23 years old. It's always fun being on the court against him. It's ridiculous some of the stuff he comes up with sometimes, but yeah, the most enjoyable match that I've had in my career for sure.
Alors, je traduis un. Sommairement, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je suis vraiment fatigué, c'était une guerre, c'était incroyablement physique. Carlos, 23 ans, on le connaît, c'est un super champion, mais franchement, c'est l'un des matchs que j'ai le plus apprécié dans ma carrière. Et il dira plus tard qu'il va récupérer, puisqu'il a deux jours, puisque le prochain match, c'est vendredi seulement. Donc, il n'avait pas l'air inquiet. De toute façon, c'est une bestiasse, hein, comme on dit, Ben Shelton, c'est un sacré gabarit. C'est un mec qui soigne son physique, donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Et puis, quelques minutes plus tard, c'est Carlos Alcaraz qui est venu. Alors lui, il a répondu à deux questions en anglais avant de passer un peu de temps avec les confrères espagnols. Écoutez donc sa réaction. Il n'était pas du tout effondré, il était même plutôt satisfait. Il faut dire qu'il revient de loin, puisqu'il n'avait pas joué depuis le mois d'avril.
Well, as I said before the tournament began, my expectation was to, you know, to go there, you know, compete, you know, playing these kind of matches, for me being healthy. So I just, I mean, it was close. It was close. So I'm just a little bit disappointed, you know, about, you know, don't getting the win at the end, but you know, I'm just happy. I'm just proud about myself, about how I felt, you know, after the third set. You know, physically I was really tired, but you know, I found a way to push myself up, you know, physically give an extra, and in the fifth set, you know, I just started to feel better and better. But you know, I was playing against Owen today, he is a beast. You know, Selton is an unbelievable player, powerful. He just managed how to play really, really well in every situation. So credit to him. But you know, I leave the court happy. I leave the court with a smile, healthy, and this is what I need.
Alors là aussi, je traduis sommairement, mais bon, vous allez comprendre l'essentiel. J'avais dit avant le tournoi, après ma blessure, mes attentes, c'était de jouer ce genre de match pour me tester. Physiquement, je le cache pas, c'était compliqué. J'ai dû pousser la machine très loin. Ben, voilà, c'est une bête, il a une puissance phénoménale. Mais franchement, je quitte le court heureux, avec le sourire et en bonne santé. Voilà, donc ça veut dire que Carlos, il va essayer de finir la saison en boulet de canon. Alors, il n'y aura pas de deuxième titre de Grand Chelem cette année pour lui. C'est à 1, donc il reste à 7. Et attention, parce qu'il y a un garçon comme Sacha Zverev qui veut mettre tout le monde d'accord si jamais il va au bout de ce tournoi. Mais ça, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Alors comment a-t-on pu en arriver là ? C'est peut-être la question que vous vous posez, vous, en France, parce que ça paraît insensé de finir des matchs à 3h30 du matin. Bah, l'explication, elle est simple. C'est que même s'il y avait une programmation, j'ai envie de dire légère, avec 4 rencontres, une session de jour et une session de nuit, eh bien, il y a eu des matchs très très longs, puisque Aryna Zabalenka est venue à bout de Linda Noskova après un match énorme, conclu au match tie-break, oui, et au match tie-break, donc elle s'en est sortie alors qu'elle était menée 4-2 dans la troisième manche par la championne de Wimbledon. Donc le match ensuite entre Frances Tiafoe et Alex Mikkelsen, bah, lui aussi s'est conclu au match tie-break. C'était un marathon, puisque Mikkelsen a, peut s'en vouloir, il a mené deux manches à zéro, il a servi pour le match à 5-4, et là, il a commis un jeu horrible, puisqu'il a commencé par deux doubles fautes, donc il a envoyé un signal terrible à Frances Tiafoe, qui s'est engouffré dans la brèche, qui est parvenu à recoller au score à 5 partout, empocher le tie-break, et finalement emmener son jeune adversaire dans un cinquième set où son expérience a fait la différence. Et il y a eu une scène absolument extraordinaire à la fin, puisque Tiafoe, au moment de la balle de match, a voulu célébrer, il était prêt à retirer son t-shirt, et là je pense qu'il a aperçu la détresse de Mikkelsen, donc il s'est ravisé, il a couru vers le jeune américain, et il y a eu une accolade absolument extraordinaire. Mais surtout, Mikkelsen a fondu en larmes, il se cachait donc dans l'épaule de Frances Tiafoe, et Tiafoe a su trouver les mots en lui disant: écoute mon gars, j'ai connu ça. Et là, je pense qu'il faisait allusion à sa défaite à Roland-Garros contre Arnaldi. J'ai connu ça, t'inquiète pas, tu vas t'en remettre. On aura encore de grands moments ensemble. Mais la scène a duré au moins 30 secondes. Il y a des photos absolument extraordinaires. Ça a été vraiment un moment fort de cette journée. On pensait que ce serait le moment le plus fort. On se trompait, puisqu'on ne pouvait pas deviner qu'on aurait encore deux matchs monumentaux derrière. Alors ça a duré très longtemps. Donc, vous savez que quand il y a la fin de la session jour, il faut nettoyer le stade avant que les possesseurs de billets de la night session pénètrent dans l'enceinte. Ça a pris un certain temps, à tel point que le match 1 donc de la night session entre Jessica Pegula et Emma Navarro a débuté à 20h30, alors que normalement c'est 19h. Donc les organisateurs ont pris 1h30 de retard. Voilà. En plus, évidemment, Pegula et Navarro ont joué 3-7, victoire de Jessica Pegula face à Emma Navarro. Donc elle va jouer donc le remake de la finale 2024 contre Aryna Zabalenka, en espérant que ça sourit pour elle, puisqu'elle est toujours placée, jamais gagnante. Et donc la rencontre entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz n'a débuté qu'à 23h. Voilà. Bon, c'est le défaut qu'on peut... Bon, c'est malheureusement une tradition ici à l'US Open. Il y a des night sessions interminables. Et très vite, on s'est rendu compte que le record de la late finish, eh bien, allait être battu, puisque c'était un match entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, un match extraordinaire en termes de qualité aussi, remporté par l'Espagnol en 5-7, qui s'était achevé à 2h50, donc c'était 2022, si je dis pas de bêtises, j'ai pas eu le temps de vérifier parce que j'essaie de faire au plus vite. Mais voilà, à partir du moment où Alcaraz est revenu à deux manches partout, on se doutait bien que le record allait être battu. Et donc, on l'a, hein, c'est donc 3h33 du matin. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la performance de Ben Shelton. Parce que, bon, il avait son plan. Il était convaincu qu'il pouvait inquiéter l'Espagnol, même s'il restait sur deux défaites. Parce que je mets de côté un match de Lever Cup. Hein, pour moi, c'est une exhibition. Il avait perdu sur Alcaraz à Toronto 2023 et à Roland-Garros l'an passé en 4 manches. Donc, il a des arguments. Mais là, sur dur, il savait qu'il avait, il avait d'autres... ses chances étaient infiniment supérieures. Il a perdu le premier set alors qu'il aurait peut-être dû le gagner. Il a eu des opportunités. Il était peut-être au-dessus. Mais il s'est bien repris. Et là, on a commencé à voir Alcaraz marquer le coup physiquement. Et, on l'a même surpris en train de vomir dans sa serviette. Il a même repoussé la caméra de télé pour qu'on voit la scène. Mais Alcaraz a tellement de ressources qu'il est recollé à deux manches partout. Et la cinquième manche a été juste fabuleuse dans une ambiance new-yorkaise avec les chansons au chambon de côté, la sono à fond. C'était, bah voilà, c'était un grand spectacle. Ça a tourné en faveur de Ben Shelton. Et c'est vrai que c'est une stat qui fait mal à Alcaraz puisqu'il était à 15 victoires, une défaite dans les cinquièmes sets. Sa seule défaite, c'était contre Berrettini en 2022. Et donc, dans l'exercice du Super Tiebreak, eh bien, il avait gagné le Super Tiebreak à Roland-Garros contre Yannick Sinner. Il avait vraiment balayé l'Italien dans un Super Tiebreak qu'il avait survolé. Mais là, il a été... je pense que c'est le service qui a fait la différence. C'est ce qu'il a dit aussi dans une deuxième réponse que je n'ai pas mis en conférence de presse. Le service de Shelton était monstrueux. Et vous l'avez vu, Shelton termine en plus... sur un ace, donc il n'y a pas photo, quoi. Victoire logique de Ben Shelton qui va donc disputer sa deuxième demi-finale ici à New York, puisqu'en 2023 il avait perdu sur Novak Djokovic, un match un peu polémique puisque Djokovic avait reproduit le petit signe je raccroche le téléphone, ce qu'avait fait Shelton au tour précédent contre Tiafo. Les confs de presse avaient été assez tendus, mais là il a une vraie chance. Il a fait des énormes progrès, je trouve. Ben Shelton, côté revers, il a tenu face à Alcaraz et je pense qu'il partira favori face à Tiafo, même si Tiafo il a une cote d'amour extraordinaire ici à New York, puisqu'il a renversé donc Mikkelsen avec sa hargne, avec son charisme. Maintenant, il a peut-être moins d'arguments que Ben Shelton, mais ça, c'est l'avenir qui nous dira. Ce sera donc vendredi. Je finis sur une note française, parce que je ne vais pas en faire des tonnes, mais je pense que Arthur Fils a suivi le Tiafo Mikkelsen avec beaucoup d'intérêt, puisque comme on a un peu le nez sur les classements ATP, il savait que si Mikkelsen battait Tiafo, il avait 90% de chance d'être top 10 lundi. Bon, ben, ça ne sera pas le cas, puisque Mikkelsen s'est troué donc, dans le fameux jeu à 5-4. Donc Arthur Fils sera 11 ou 12 lundi, mais il est passé tout près d'être 10. Pourquoi ? Parce que il y avait un cas seulement qui l'aurait privé de la place de numéro 10. En cas de victoire de Mikkelsen, hein, vous m'avez compris, il y avait un cas seulement, c'était la victoire de Blocks dimanche à Flushing. Bon, les chances, je sais pas, il a beaucoup de talent Blocks, mais vu sa partie de tableau, je pense que les chances étaient réduites. Donc c'est pour ça que je dis, allez, c'est à la louche. Hein. Arthur Fils avait 90% de chance d'être top 10, d'être le 13e joueur français de l'histoire à rentrer dans ce cercle fermé. Ça pourrait faire l'objet d'un quiz, mais je pense que vous suivez suffisamment le tennis pour savoir que pour connaître les 12. En tout cas, c'est, j'espère, ce n'est que partie remise. En principe, oui, il y a ces mécaniques. Il va forcément passer devant les mecs qui sont juste devant lui. On sait que Fritz n'aura que quelques points d'avance sur le français au prochain classement ATP. Mais comme Arthur n'a aucun point à défendre, j'ai envie de dire, c'est mécanique, ça va tomber comme un fruit mûr. Mais bon, c'était pas pour aujourd'hui, donc c'est une petite contrariété pour Arthur, parce que bon, je pense qu'il aurait été évidemment aux anges de pouvoir célébrer ce statut de top 10. Bon, bah voilà, c'était juste pour l'anecdote. L'essentiel était ailleurs. On a des affiches assez folles, donc on a l'affiche de la première demi-finale de cette US Open, 100% américaine. Et j'ai une pensée pour Andy Roddick qui va peut-être, j'imagine qu'ils y ont pensé, hein, les organisateurs, qui va peut-être remettre le trophée dimanche au vainqueur si c'est un Américain. Et donc, on saura vendredi si c'est Shelton ou Tiafoe qui sera sur le court dimanche. Mais forcément, ça va être historique. On a eu Fritz il y a 2 ans, mais qui n'avait pas fait le poids face à Sinner. Mais là, franchement, le survivant de la demi entre Shelton et Tiafoe, il aura toutes ses chances parce que, ok, ça peut être Zverev, ça peut être Khachanov. Alors, si c'est Khachanov, il a plus de chances. Mais prenons le cas Zverev. Zverev m'a pas fait une impression folle. Et donc, il y aura une fenêtre. Il y aura une fenêtre pour le vainqueur du choc fratricide de vendredi entre Shelton et Tiafoe. Voilà, on va aller au dodo. Je ne sais même pas quelle heure il est ici à New York, mais c'était une journée complètement dingue, historique. Et franchement, j'en ai pas assez parlé. Le Shelton Alcaraz, il y a eu des feux d'artifice, il y a eu une montagne de hot shots. C'est pas étonnant quand on connaît le talent d'Alcaraz, mais franchement, Shelton s'est mis au niveau et il a absolument pas volé sa victoire. Mais c'était vraiment l'un des plus beaux matchs de l'année. Ça, c'est une certitude. En Grand Chelem, je pense même que c'est le... Ouais, je le mets en 1 personnellement. Même si en Australie, le Djokovic-Sinner était pas mal. Mais c'était pas pareil. C'était plus un combat tactique. Là, il y a eu des points absolument fabuleux. Vous allez les voir, hein, sur les réseaux sociaux. Le CM de l'US Open, il a dû se régaler. Parce que, ouais, quand deux talents comme Shelton et Alcaraz rivalisent, d'ingéniosité, ça... Ça donne un feu d'artifice. C'est ce qu'avait prédit Shelton. Eh bien, il a eu raison. Et en plus, c'est lui qui sort vainqueur. Il était cramé. Mais au fond de lui, il peut être très fier de sa performance parce qu'il fallait le sortir le tenant du titre. Même si Alcaraz a manqué de jambes, ce qui est légitime après 4 mois et demi d'absence, il a manqué de jambes, il a manqué de fond. Mais malgré ça, il a failli s'en sortir au talent, battu seulement donc au match tie-break. Ça arrive, la roue tourne, mais bon, on va pas pleurer sur Alcaraz. Ben Shelton fait un magnifique demi-finaliste et on se régale d'avance donc du match 100% américain entre Ben et Frances. Ciao, ciao.
RMC, cours numéro 1.